OK. Donc, nous sommes, me semble, dans le 30e message, dans l'Épître aux Romains. On avance. On finit le chapitre 13 aujourd'hui. On aura le 14, 15 et 16 qui restent. Aujourd'hui, c'est Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Et je vais lire, avant d'entrer dans le message, je vais lire le verset, puis je vais faire un petit mot, et puis on va progresser. Donc, je vais lire Jean chapitre 6, versets 66 et 67. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Quand même triste question. Et puis aussi dans Jean chapitre 21, verset 15, c'est la fin du verset, et sur la base du grec, j'ai modifié la traduction, que c'est peut-être pas la même que vous avez. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ces choses? M'aimes-tu plus que ces choses? » Quand je baptise quelqu'un, déjà, je baptise le croyant. Il y a beaucoup de monde qui se contente d'être croyant, de savoir que leur place au ciel est assurée et que, voilà, Dieu va tenir sa promesse. Mais comment vont-ils vivre? Et donc, quand je baptise une personne, je demande si la personne croit en Jésus-Christ, mais je demande aussi si la personne compte vivre une vie chrétienne. Vivre une vie chrétienne n'est pas facile. Et ça ne vient pas tout de suite. Je veux dire, ce n'est pas obligé. C'est-à-dire, Dieu nous sauve et puis il veut qu'on vit sur le chemin de Jésus. Okay? Donc, dans le suivi des Romains, chapitre 1 jusqu'à chapitre 11, pour dire rapidement, on a parlé de tout l'Évangile et comment il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et à partir du chapitre 12, on parle aux chrétiens. On parle à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, on a posé les fondements de la vie chrétienne. Tout ça s'est mis en place et Paul va développer maintenant les trois principes que nous avons déjà étudiés dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Donc, je ne vais pas relire le verset, je vais simplement faire le résumé. Première chose, offrez vos corps, parle aux croyants, il ne parle pas aux non-croyants, il parle aux croyants. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. La seconde chose, ne vous conformez pas au siècle présent. Troisième chose, renouvelez votre intelligence. Donc, quand je demande à quelqu'un, comptes-tu vivre la vie chrétienne, ça suppose que la personne va adopter ces trois points. Les trois points sont obligatoires pour réussir une vie chrétienne. Okay? Donc, on a l'ensemble de ces trois principes qui vont transformer la vie de la personne, de ce nouveau croyant, pour discerner la bonne, l'agréable et parfaite volonté de Dieu. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, on continue à vivre dans ce monde qui est penché vers le péché, et on a tout ce qui est en opposition à Dieu, qui veut dire qu'on est obligé de prendre position. Soit je vais vivre comme le monde dans le monde, ou je vais vivre pour Dieu dans le monde. Pour vivre la vie chrétienne, pour aimer Dieu par-dessus tout, pour adopter les pensées de Dieu, pour vivre pour Dieu, il faut se séparer de ce qui déplaît à Dieu. Personne ne peut aimer Dieu tout en adhérant au monde et aux mauvaises pratiques qui sont dans le monde. Donc nous allons lire Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Donc le mot « cela » fait référence à ce qu'on a vu auparavant dans les chapitres 12 et 13. Et globalement, c'est la pratique de l'amour, du bien, du respect, ces choses-là. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Verset 12. « La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc ce paragraphe revient à dire que nous devons montrer notre amour pour le Seigneur par une vie véritablement chrétienne. Aimer Dieu, c'est le premier des deux grands commandements. Une personne montre son amour pour Dieu, soit par son respect pour la parole, pour le mettre en pratique, soit par son respect pour ses prochains, créés à l'image de Dieu. Donc on va regarder de plus près ces versets. Donc chapitre 13, verset 11, la première phrase. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, dans quelle saison, dans quel moment, dans quelle époque nous sommes. » Alors, comme je vous ai déjà dit, le mot « cela » fait référence à tout ce que Paul a déjà dit auparavant, concernant l'amour, le respect, etc. Les chrétiens doivent aimer. C'est la marque du chrétien, c'est aimer son prochain. Faire le bien, même évangéliser, et vous allez vous souvenir, la raison même que Jésus est venu, c'est pour l'évangile. Le « cela » est avec une certaine urgence. Et « cela » importe autant plus. Connaissant notre place dans l'histoire de la planète, dans le plan de Dieu. Donc la question on doit se poser, quelle est notre place? Nous sommes dans quelle époque? Quelle est l'urgence? Ok? Alors, donc j'explique, nous sommes dans la dispensation de la grâce à l'époque de l'Église Nouveau Testamentaire. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse et nous attendons un futur millénium. 1 Jean chapitre 2 verset 18 qualifie notre époque comme étant la dernière heure. L'heure sur l'horloge de Dieu juste avant de verser sa grande colère. Jean dit que ceci est évident par la prolifération de personnes antichrist. Ceci veut dire que nous, comme Jean, nous attendons le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour nous recevoir à lui-même. Ainsi Paul dit dans la suite du verset 11, la prochaine partie, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Aujourd'hui n'est pas un temps pour dormir, mais pour travailler. Ainsi, Paul invite ceux qui sont endormis à se réveiller, tels les cinq vierges qui manquaient de sagesse. Le christianisme, aujourd'hui, je parle du grand christianisme, a perdu le chemin. Beaucoup de chrétiens se sont intégrés au monde. Ils sont confortables. Ils se sont endormis par les plaisirs surabondants de notre époque. Certes, le chrétien vit dans le monde et il se sert du monde, mais le chrétien n'est pas du monde. Notre patrie est céleste. Malheureusement, beaucoup de chrétiens imitent le monde. Au lieu de se soucier pour servir et plaire au Seigneur, il aime enfin le monde. Mais Dieu appelle le chrétien pour vivre d'une manière distincte du monde. Le monde a ses façons et le chrétien devrait avoir les façons du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je le mets dans une question. Ne comptes-tu plus vivre la vie chrétienne? Un chrétien, un croyant qui s'est fait baptiser, qui a dit « Oui, je veux vivre la vie chrétienne » et puis qui commence à imiter le monde. Ne veux-tu plus vivre la vie chrétienne? De la chevelure jusqu'aux chaussures, nous imitons le monde. Nos vêtements et souvent même nos choix de nourriture reflète le monde. Notre utilisation de l'argent, notre utilisation du temps, nos amusements et notre musique sont tous mondains. Et oui, même nos pensées, nos trésors et donc nos cœurs sont attachés au monde. Les églises, beaucoup d'églises de notre époque ne sont plus sérieuses. Elles sont remplies d'hédonistes, des gens à la recherche des plaisirs, au lieu de combattants spirituels. Le nouveau message des églises, beaucoup des églises, qui remplace l'évangile est comme ça. Venez jouer avec nous, nous avons la musique du monde, nous avons les lumières des discothèques, nous portons des vêtements de roue, nous sommes exactement comme vous. Vous vous sentirez bien chez nous comme chez vous. Il n'y a pas de distinction entre ces églises-là et le monde. Hélas, le christianisme de notre époque est tellement déformé que le Seigneur Jésus a demandé, il y a 2000 ans, dans Luc chapitre 18 et verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Et quand il utilise le mot « foi »,« trouvera-t-il la foi sur terre ?» il veut dire l'ensemble de doctrines et de pratiques, ce qu'on a dit, le dépôt de la foi. Est-ce qu'il y aura des véritables chrétiens quand Jésus revient ? Si le Jésus des évangiles entre aujourd'hui dans votre assemblée ou dans notre assemblée, sera-t-il bienvenu? Se sentirait-il chez lui ou chez le monde? Quel est le message de Jésus aux chrétiens? Aux uns, il dit, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Aux autres, dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. Jésus dit aux uns, veillez. Et dit aux autres, réveillez-vous. Et à tous, il dit, ne dormez pas. Écoutez les paroles de Jésus. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, Jésus dit, « Veillez et priez. » Donc, veillez, c'est ne dormez pas. C'est être éveillé, ok? « Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible, ça veut dire que c'est notre nature humaine de tomber dans le péché, de tomber dans les façons du monde. Dans Marc chapitre 13, verset 35 à 37, nous lisons, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez. » Donc ça, il s'adresse à nous. Nous devons s'inquiétez, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis à tous,
veillé.
Il veut qu'on soit éveillé quand on veille. Verset 11, toujours verset 11, une prochaine phrase. C'est l'heure de vous éveiller enfin du sommeil. Donc, il a donné plusieurs versets de Jésus, puis il dit, réveillez-vous. Et donc, Paul dit ici, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il ne parle pas aux non-chrétiens, il parle aux chrétiens. Se réveiller d'un sommeil profond suppose qu'il y a quelqu'un qui vient vous secouer. Réveille-toi! J'ose dire que se réveiller donc, spirituellement est impossible s'il n'y a pas un renouvellement de nos pensées. Une repentance concernant ce qui est vraiment chrétien et ce qui n'est pas du tout chrétien. Car si vous êtes dans une stupeur, dans une indifférence, avec une baisse de vigilance quant à la volonté de Dieu, si vous êtes content comme vous êtes et vous désirez, comme les Israélites, retourner vers l'Égypte pour les bons mets connus pendant leur esclavage, rien ne peut changer. C'est comme si vous êtes profondément endormi. Donc Jésus a dit dans Luc chapitre 21, versets 34 et 35, il a dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous et il dit à l'improviste. Car il viendra, le jour du Seigneur viendra, c'est certain. On ne sait pas quand. Soudainement. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il viendra. Paul dit exactement la même chose dans verset 11 à la fin, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, dans ce verset, le mot salut fait référence à l'achèvement du salut. Ce n'est pas le moment de croire en Jésus, mais c'est le moment de recevoir tout ce qui est compris dans ce mot, le salut. C'est le moment où le croyant sera dans la présence céleste du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, cela signifie qu'un jour, vous êtes réveillé ce jour-là et vous étiez pécheur condamné à une éternité de souffrance sans Dieu, mais que ce même jour, vous vous êtes converti à Jésus-Christ en acceptant le pardon que Dieu vous offre grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Vous avez confié votre avenir éternel à Jésus. Et donc, vous êtes passé de la mort à la vie. Ce jour-là, en réveillant, vous n'étiez pas chrétien. Vous êtes converti à Jésus, donc vous êtes passé de la mort à la vie par la nouvelle naissance. Depuis ce jour-là, vous attendez le retour du Seigneur Jésus. Or, d'après ce que dit Paul, puisque Jésus n'est pas venu hier, eh bien, il doit venir aujourd'hui. On pourrait dire, il va venir demain. Mais le fait, c'est que nous vivons toujours aujourd'hui. Okay? Jésus va revenir et nous devons l'attendre, pas demain, nous devons l'attendre aujourd'hui. Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur Jésus? Verset 12, on commence avec cette phrase-là. La nuit est avancée, le jour approche. Donc, le mot avancer, c'est augmente, procède, profite, avance. La nuit avance. La nuit, donc les ténèbres, augmentent. Mais le jour approche, est à portée de main. Okay? Donc, quand il dit la nuit, il parle de l'histoire de notre planète sur laquelle règne le péché. le mystère de l'iniquité qui agit déjà depuis très longtemps, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. La nuit, dit Paul, est bien avancée, presque finie. Le temps des ténèbres approche sa fin. Et le jour, c'est-à-dire la présence du Seigneur Jésus, est à portée de main. Depuis 2000 ans, j'ai fait le calcul, ça fait plus de 700 000 jours. Depuis plus de 700 000 jours, les chrétiens attendent le retour imminent du Seigneur Jésus. Ce mot imminent, ça signifie ce qui va arriver dans très peu de temps, ou qui est immédiat, ou qui est proche. Le retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever les chrétiens est devant nous, proche, immédiat, tout à coup, de façon inattendue. Alors, puisque les 2000 ans sont derrière nous, le Seigneur Jésus est devant nous, à la porte. Toujours dans le verset 12, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous, renonçons aux œuvres des ténèbres et revêtons, enfilés, les armes, l'armure ou les instruments de la lumière. Sommes-nous endormis? Notre christianisme, nous, moi-même, sommes-nous endormis? Tandis qu'on devrait être prêt pour le combat spirituel, nous nous trouvons, dans le grand christianisme, en train de faire la fête, de somnambuler dans les voies du monde. Sommes-nous comme Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, qui festoyait pendant que les Mèdes arrivaient pour attaquer son royaume? Sommes-nous tellement endormis avec les stupéfiants et par les plaisirs de ce monde que Dieu doit nous dire de changer nos vêtements souillés? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ça veut dire changer vos vêtements sales. Si c'est le cas, c'est que nous n'avons pas fixé notre optique sur le prix céleste. Nous avons gaspillé notre trésor ici-bas au lieu d'amasser des trésors pour l'éternité. Mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui même, le Seigneur nous exhorte, il nous encourage, il nous conseille. Revêtons l'armure de la lumière. Je vais lire dans Éphésiens 5. Donc, vous pouvez tourner la page, mettre quelque chose là, ou à droite, ou quelque chose pour ne pas perdre Romains chapitre 13. Mais on va lire un peu dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Autrefois, verset 8, autrefois, c'est-à-dire avant d'avoir cru en Jésus-Christ, vous étiez ténèbres. Hein? Dans votre vie de non-croyant, vous étiez ténèbres. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, vous allez vous souvenir qu'en Matthieu, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et notre lumière doit être visible en haut de la montagne. Okay? Il veut qu'on luise. Il dit donc, dans Éphésiens chapitre 5, marchez comme des enfants de lumière. Donc, on voit qu'il y a constamment ce contraste entre les ténèbres et la lumière. Okay? Marchez comme les enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Donc ça revient à ce que Paul a enseigné dans Romains chapitre 12 et 13. Il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc ce mot examiner signifie qu'il faut réfléchir. Mais ce n'est pas réfléchir sur la base du journal. C'est réfléchir sur la base de la parole de Dieu afin de vous accorder avec la pensée de Dieu. Comme Paul a dit dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit aussi dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, on a cette phrase, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On voit constamment cette presque une compétition. On est dans quel monde en tant que chrétien? On marche avec le Seigneur Jésus ou on marche dans le monde? L'ange dans Apocalypse 18, verset 4, disait quelque chose comme ceci. Il dit, en référence à cette même idée, ne prenez point part. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Si vous aimez Dieu, par-dessus toute autre chose, vous allez vous détacher des œuvres du monde et des faux mouvements religieux. Quand vous êtes libéré, vous pouvez avancer avec le Seigneur comme il faut. C'est à vous d'agir. Ce n'est pas Dieu qui va prendre vos décisions pour vous. Il vous responsabilise de faire des choix, de montrer votre amour pour lui. Mais quand même, il attend que vous allez adopter sa vision sur la vie. Et c'est pour cela qu'il vous a donné sa parole. Donc, il a dit de renoncer aux œuvres des ténèbres, donc d'arrêter de les pratiquer, d'écarter-vous de tout cela. Et puis, donc il dit dans le verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement en plein jour. Marchons, c'est conduisons-nous. Honnêtement, c'est honnêtement ou décemment, comme en plein jour. Donc, marchons, il dit, honnêtement, dans la lumière. Plein jour, c'est la lumière, c'est-à-dire sur le chemin de Jésus. Il n'y a pas une nouvelle religion, c'est toujours la même chose. Jésus veut qu'on marche sur son chemin qui est lui, éclairé par sa parole. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 13, on peut continuer à lire, « Mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière, car tout ce qui est manifeste est lumière. » Donc, à réfléchir, il veut dire, si vous voulez vivre en tant que chrétien, si vous voulez vivre dans les ténèbres, il faut éteindre la lumière. Donc, le Seigneur dit ailleurs, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Hein? Dieu ne veut pas qu'on soit un peu traître et vivre dans le monde. Mais c'est possible. Mais non, il ne faut pas le faire. Verset 14. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi. Donc il parle aux chrétiens qui se sont endormis, qui se sont approchés trop au monde, qui vit malheureusement dans les ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Les morts sont les gens qui sont du monde. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire. Marchez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mauvais pourquoi? Parce que c'est notre époque. C'est la nuit qui avance, qui est presque finie. Prolifération des antichrists. Mais le Christ va venir. Donc, ces choses veulent dire qu'il faut examiner votre vie. Mettez de la distance entre vous et ce qui est mal. En revenant dans Romains chapitre 13, Paul dit dans le verset 13, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. je vais expliquer quelques mots là. Les excès, c'est comme les festins ou les folies, comme si vous relâchez. Bon, vous avez fait un bon effort comme chrétien, et puis un jour vous dites, oh, je suis fatigué, je vais faire ces autres choses. OK? Donc, c'est ça. Loin des excès, il dit, et de l'ivrognerie, donc l'intoxication, ça c'est net. De la luxure, donc luxure, c'est un mot qui signifie la licence, on se donne la licence de faire le mal. C'est une conduite sexuelle scandaleuse, choquante pour la décence publique. L'impudicité, c'est les rapports sexuels immoraux, la cohabitation. Les querelles, donc vous connaissez bien les conflits, les querelles, les contentions, et les jalousies, donc la jalousie, ce mot ici, c'est un zèle mauvais, donc la jalousie, la rivalité, etc. Alors, ça nous étonne, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent de vivre dans la cohabitation, quand c'est nettement clair dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas. Et en plus, il est marqué dans 1 Timothée chapitre 4 que la doctrine de ne pas se marier vient des démons. Et beaucoup de chrétiens choisissent de cohabiter que de marcher avec le Seigneur. C'est notre époque. C'est la nuit. Puisque notre humanité se porte automatiquement vers ces mauvaises œuvres, peut-on vivre autrement? Est-ce possible de vivre autrement que le monde? Devons-nous simplement nourrir nos désirs pour les faire taire? Que faire? Nous avons un indice dans l'expression « les armes de la lumière ». Okay? Ce mot « les armes » suggère qu'il y a une bataille, il y a un combat. Et donc, la vie chrétienne est sérieuse. On doit être sérieux. Dans Éphésiens chapitre 6, je vais juste prendre quelques phrases dans ce passage. Éphésiens chapitre 6, entre le verset 10 et 14, on peut lire dans le 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et puis je vais sauter un peu vers la fin du chapitre 2, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pas les mauvais jours aujourd'hui, on parle des ténèbres. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ce qui revient un peu à rester éveillé. Gardez votre place. Dans Galates chapitre 5, verset 16, nous lisons « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Notre chair a des désirs. Mais si on marche avec l'esprit, on ne va pas les mettre en pratique. On ne va pas mettre en pratique les désirs de la chair. Donc, soyez conduits par l'esprit. Dieu nous autorise. Il nous conseille de marcher en compagnie avec son esprit. Il dit, échangez vos vêtements salis avec l'armure que le Seigneur Jésus a pour vous. Donc, on revient dans Romains chapitre 13, verset 14. Donc, ils mettent tout ça en opposition, ils mettent le mot « mais ». Donc, au lieu de vivre dans la luxure et dans la jalousie et toutes ces choses, il dit « mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Cette idée d'avoir soin, c'est l'idée de faire provision. Faire provision de satisfaire ce qui sont les désirs démesurés de notre humanité. Donc, à bien comprendre, pour se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, il faut être à 100%. Il faut être à 100%. L'idée, c'est de ne pas prévoir d'avance ce qui va nourrir notre nature pécheresse. Par exemple, l'ancien alcoolique ne doit pas avoir une réserve de vin ou de bière à la maison. Si vous... Je ne vais pas donner d'autres exemples. Mais l'idée, c'est que vous ne devez pas garder chez vous ce qui pourrait vous tenter de faire ou de revenir à votre ancienne vie. Il faut couper entièrement avec ces choses-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons « Qu'y a-t-il ?» Donc je raccourcis un petit peu ce verset aussi, c'est les versets entre le 14 et le 18, mais je prends quelques phrases là-dedans. « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et puis plus tard, il va dire « Nous sommes le temple du Dieu vivant », en parlant du chrétien. Un peu plus tard, il dit, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Il ne parle pas du salut ici. Il parle de notre quotidien. Il parle de notre communion avec le Seigneur. Quand il dit « Sortez du milieu d'eux » ou « Séparez-vous », il ne veut pas nous dire « Isolez-vous dans le monde ». Il veut dire « Rapprochez-vous de Dieu ». Si vous mettez Jésus en premier, si vous marchez d'un pas avec le Saint-Esprit, si vous aimez Dieu, vous n'allez pas vous mettre dans les conditions propices au péché. Si la vie éternelle occupe vos pensées, vous ne serez pas si attaché à ce qui se passe ici-bas. Vous ne serez pas si troublé par les événements dans l'actualité. Pour aimer Dieu, par-dessus tout, pour adopter les pensées de Dieu, pour vivre pour Dieu et marcher avec Jésus, il faut vous séparer de ce qui déplaît à Dieu. Voilà, il faut bien retenir cette pensée. Personne ne peut aimer Dieu tout en adhérant au monde et aux mauvaises pratiques du monde. Même si ces choses sont vernies d'un vocabulaire chrétien. Donc je vais vous laisser avec... la question que Jésus a posée au début, il a posé ça à Pierre. Imaginez que Jésus vous adresse ces paroles. Frère ou sœur, il dit, c'est Jésus qui dit, m'aimes-tu plus que ces choses? Voilà. Plus que ces choses. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? Comment vous répondrez à Jésus? Bon, Pierre a répondu, bien sûr, tu sais, je t'aime, n'est-ce pas? Et j'espère que c'est vrai pour nous tous aussi, mais quand même, avec tous ces versets, tous ces mots que nous avons vus aujourd'hui, eh bien, il faut voir, est-ce que je suis réveillé ou endormi? Je suis dans le monde ou je marche avec le Seigneur Jésus? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ok, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine. Et puis, pour vous qui partez en vacances, bonnes vacances, et pour vous qui restez là, bonne continuation. Au revoir tout le monde.